Merci aux jeunes, mes amis, frères et sœurs. Nous allons ensemble prier Dieu pour l'accueillir dans notre Église. Mais l'essentiel, c'est encore de l'accueillir dans notre cœur. Car c'est sa présence qui nous permet d'écouter avec une grande attention la portée de ses paroles. Nous allons parler cet après-midi d'une parabole sur les invités à un grand repas. Et il nous faudra bien un jour répondre à la même invitation. Car les invités, c'est vous. Alors prions le Seigneur. Merci parce que tu ne nous laisses pas aller dans la vie sans cette merveilleuse espérance, cette lumineuse invitation, venez à mon repas. Seigneur, c'est notre raison de vivre aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de nos jours, de nos nuits, de nos combats quotidiens, c'est que nous sommes attendus dans la maison de Dieu, la maison du Père. Seigneur, donne-nous d'écouter cette invitation aujourd'hui, que nos oreilles soient attentives et que notre cœur soit prompt à répondre. Mets ta bénédiction, ta force, ta bonne main sur chacun de nous. Touche ceux qui sont en difficulté, en peine, en chagrin, en souci, en maladie. Car ta parole, c'est toi qui es là. C'est toi qui parles à notre cœur. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à ouvrir la Bible, car rien ne doit se dire dans l'Église sinon la Bible. Parole de Dieu de la première à la dernière page. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble cette belle histoire de Luc, Évangile de Luc, chapitre 14. On trouve pratiquement la même histoire dans Matthieu chapitre 22, mais nous lirons Luc chapitre 14, verset 15. Le Seigneur ne parle jamais pour meubler le temps, mais pour nous donner l'éternité. Il nous faut donc, mes amis, être attentifs à tout ce que dit Jésus. Chaque mot, il dit même chaque trait de lettre. Un trait de lettre, c'est quoi? Dans la langue de Jésus, en hébreu, il y a des lettres avec des petits crochets. C'est joli. Des petites jambes. Et il a l'air de dire tous les petits crochets, toutes les petites jambes, tout a de l'importance. Ce qui veut dire ne laisser tomber à terre rien. Aucun commandement, aucun conseil. Tout a du poids pour notre vie. Lisons ensemble, chapitre 14 de Luc, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, je vous dirai après quelques mots sur ces paroles de Jésus, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. » Donc il va les mettre à l'attelage. « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités, et qui ont refusé donc, ne goûtera de mon souper. Amen. Il me vient à la pensée le militaire que j'étais il y a déjà pas mal d'années. Je n'étais pas un engagé, mais simplement un appelé, comme ils étaient appelés aussi. Et comme il n'y avait pas d'église dans cette grande ville militaire de Metz, en Moselle, on n'avait que deux solutions pour aller au culte le dimanche. C'était aller à Strasbourg. Pas facile, il y avait le col de Saverne à passer la nuit, ou alors aller à Nancy. Et pour se déplacer, il n'y avait pas 36 solutions, il n'y en avait qu'une, à pied ou en autostop. C'était ainsi. Et comme tous les militaires étaient habillés en militaire, on avait pitié quand même. Enfin, un homme s'est arrêté, il m'a emmené jusqu'à Nancy, un homme très bien, avec une très belle voiture, plus belle que le char d'assaut. Et il m'a dit, écoutez, mon brave ami, j'ai réservé une table à Nancy, place Stanislas. Je ne sais pas si vous connaissez la place Stanislas à Nancy, avec les portes magnifiques, c'est une place splendide. J'ai réservé une table, on a une place de libre, si vous voulez, vous venez manger avec nous. Oh, le deuxième classe que j'étais était transporté de joie. Moi qui avais dans ma poche qu'un morceau de pain et juste de quoi prendre une soupe le soir. Il me laisse sur le trottoir, il me dit je vais en parler avec le patron du restaurant et je vous rappelle et on va partager le repas. Oh, mon bonheur, place Stanislas à Nancy. La suite de l'histoire c'est que j'attends encore. Il n'est jamais ressorti du restaurant, il m'a laissé sur le trottoir. J'étais un appelé un peu déçu. Et puis, eh bien, j'ai savouré avec un délice, vous ne pouvez pas savoir, mon morceau de pain. Mais le bonheur, c'est que le lendemain, j'étais à l'église pour chanter la louange du Seigneur. Amen. Heureusement, le Seigneur ne nous abandonnera pas en cours de chemin. Et tous ceux qui auront dit oui à son appel seront largement récompensés. Il parle, le Seigneur, souvent dans les évangiles, de repas. Et on le voit lui-même souvent à des repas. C'est un moment important, trois fois, et pour certains, quatre fois par jour, on se met à table et on mange. Et il a dit un jour, quand vous faites un repas, quelque chose qui est surprenant, n'invitez pas vos amis. Qui voulez-vous que j'invite ? N'invitez pas vos amis qui vont vous rendre le repas le mois prochain, et vous, pour leur rendre le repas, vous allez leur rendre encore un repas. Enfin, ça n'en finit pas, vous savez. Quand vous faites un repas, dit Jésus, invitez des pauvres, des infirmes, des aveugles, des estropiés, parce que eux, ils ne pourront pas vous rendre le repas, et le Seigneur vous le rendra à la résurrection des justes. C'est qu'en ce temps-là, mes amis, les temps ont changé. Hein. On croyait qu'après cette vie, il y avait une vie où nous étions accueillis, reçus, récompensés pour ce que nous avons fait sur la terre, dans notre corps, par rapport à Dieu. On y croyait. Et voilà que quand Jésus a parlé ainsi, invite les pauvres, invite les estropiés, etc. Un homme s'est levé, il a poussé ce cri de bonheur, de joie. Heureux l'homme qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Magnifique. Un repas. C'est rassurant, un repas, non ? au moins on sait que là-haut, on retrouvera certains repères. Il y aura une table, il y aura... Oh, écoutez, je ne sais même pas si je dois vous dire tout ça. Peut-être des assiettes, on ne sait pas. Peut-être des verres, je ne sais pas, là, très bien. Mais un repas, c'est sûr, nous mangerons. C'est rassurant, c'est convivial, c'est proche de notre vie. On sait quand même où l'on va, on sait qu'on ne va pas débarquer dans un grand océan en train de nager tous, là, au petit bonheur. Nous serons dans une immense salle de repas. Amen. C'est encore mystérieux, non? Et l'évangile de Matthieu, dans cet évangile, Jésus dit, c'est un repas de noces pour le Fils. Donc c'est quand même un immense repas. Et Jésus va dire cette histoire de la parabole des conviés pour nous dire plusieurs petites choses. D'abord, nous serons tous ensemble. Deuxièmement, c'est un repas qui est largement ouvert à tout le monde. Tout le monde peut y aller. Les pécheurs sont invités cordialement. Et tous ceux qui vont mal dans la vie sont invités aussi. Et puis, troisième chose, le Seigneur nous dit, attention, vous pouvez manquer le repas. Et c'est votre plus grand trésor. Il n'y a pas de plus belle chose que de savoir que Dieu nous attend quand nous fermerons les yeux à cette terre. Attention, vous pouvez manquer ce repas. C'est vrai, quand j'ai relu l'histoire, que je connais bien, je vous avoue que j'ai eu froid dans le dos. Oui. Parce que je me suis dit, ils ont raté à peu de choses près. Ils ont dit non, ils auraient dit oui, ils seraient rentrés. Mais ils ont dit non. Pour des histoires banales. Un champ à voir. Oh. Des bœufs qu'il faut mettre à l'attelage. Ça ne peut pas attendre un peu? La mariée, bon, bien sûr. Non, hein. On va le faire grâce au, on fait grâce au marié? On y va? On fait grâce au marié. Non pas qu'il a eu raison de dire non, mais là, c'est vrai qu'il avait une excuse qui était un peu plus valable que les autres qui disaient « j'ai acheté un champ ». Nous pouvons manquer ce repas. Nous pouvons dire par une circonstance qui nous paraît importante à nos yeux « je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, je n'ai pas que ça à faire » et hop, nous manquons le repas. Le maître a invité beaucoup de gens. Je pense que c'est notre plus grand honneur, mes amis, de voir que Dieu s'intéresse à nous, nous appelle, nous prépare quelque chose pour l'après et aussi pour l'avant, pour maintenant. Dieu nous prépare des choses magnifiques, belles, rassurantes, réconfortantes. Chacun a sa part de consolation dans la vie. C'est chacun a sa part de bonheur en Dieu, s'il le veut, c'est le plus grand réconfort de l'existence. C'est un honneur. Dieu nous appelle. Il vous appelle, mes amis, à entrer dans sa vie, dans son chemin. Un proverbe allemand dit, Dieu n'a pas fait le ciel pour les oies. Ben non. Il l'a fait pour nous. Il a tout fait pour nous. L'univers, le royaume d'en haut, la ville du ciel, il a fait la terre, les animaux, les plantes, l'air, tout a été fait pour que l'être humain qui est au centre de tout connaisse par tout cela la bonté infiniment grande de notre Dieu. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous a fait participer à ses biens. Il n'a pas dit, vous êtes chez vous au premier étage, moi je suis au 15e étage, chacun chez soi. Il veut nous faire participer à son bonheur. Que ni le péché, ni la mort, ni le diable ne pourra nous enlever. Parce que sur la terre, rien ne tient. Tout est liquide. Tout est fluctuant, on ne reconnaît plus le monde. Les anciens disent « je m'y reconnais plus, on ne sait plus où l'on va. Internet nous déboussole. » Mais les grands patrons d'Internet, Google et puis d'autres, ont eu la sage idée. Tous les plus grands de la Terre qui ont affaire, qui gagnent des milliards avec Internet, ont eu l'idée, somme toute très banale, mais très sage. Ils mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'ordinateur, et pas de téléphone portable, et pas de tablette numérique. Ils mettent leurs enfants dans des écoles où l'on écrit sur un tableau noir avec de la craie blanche. Vous vous rappelez de ce temps-là ? Où l'on met les encyclopédies et les livres sur une étagère en bois, où les pupitres ne sont que du bois et on y met des cahiers avec de l'encre. Parce qu'ils se disent, tous ces gens-là, toute cette histoire d'Internet va faire dérailler le monde, donnons à nos enfants de bonnes bases. Après, ils feront ce qu'ils veulent, bien sûr. Est-ce qu'ils ont raison ou pas ? Je dis ça pour vos enfants et pour vous-même. Dieu nous fait participer à ce grand repas, cette grande histoire d'amour magnifique. Jésus dit à l'heure du souper, parce qu'il y a bien un moment, il faut se mettre à table. Les enfants, la soupe est prête, on arrive. Les enfants, c'est servi, c'est chaud. Les enfants, c'est servi. Vous avez déjà fait, vous avez déjà dit ça, non ? À l'heure du repas, le serviteur est allé chercher les invités. Pardonnez-moi, je ne connais pas l'heure et le jour du repas. Je ne sais pas à quelle heure, quel jour, quelle minute. Mais je sais une chose. Le jour où le Christ frappe à la porte de notre cœur, c'est l'heure du repas. Ce jour-là, il faut répondre. Le jour où le Christ a frappé à ma porte, un dimanche 3 septembre vers 16h30. C'est précis, vous allez me dire. Ben oui, ça m'a tellement bouleversé, bousculé, que je ne m'en suis pas encore remis. Eh bien, ce jour-là, j'ai dit oui, Seigneur. Je suis à toi pour toujours. Demande-moi tout ce que tu veux. Il y a quelques années de cela. Tout est prêt. Le serviteur vient frapper à la porte. Cette porte, c'est notre conscience. La conscience, ce n'est pas seulement l'avertisseur qui dit « Attention, tu fais bien, attention, tu fais mal. » La conscience, dans la Bible, c'est ce lieu secret où Dieu veut habiter. Cette profondeur qui est à l'intérieur de nous, où Dieu veut entrer et où Dieu frappe. Cette conscience, c'est notre cœur. Il frappe aujourd'hui. Venez, tout est déjà prêt. Autrement dit, je n'ai rien à faire. Dieu me donne la liberté de répondre à cette parole. Venez, j'ai la liberté de répondre. Rien à faire, c'est pas beau ? Les pieds sous la table. Oh, une fois, nous avions invité quelqu'un, une connaissance quand même assez proche, espagnol. On n'a rien contre les Espagnols. Très gentil. On lui avait fait un repas un soir, bien. Il arrive, je ne veux pas de ce que vous avez préparé. Ah bon ? Je vais vous montrer comment on fait de la cuisine chez nous. Et il nous a fait une tortilla. Vous connaissez la tortilla ? Mais il l'avait un peu ratée. Bon. C'était doublement vexant parce qu'on avait préparé le repas qu'on a mangé après tranquillement toute la semaine. Et puis on a mangé sa tortilla qu'il avait plus ou moins fait rôtir. C'est terrible. Mais dans le ciel, mes amis, nous n'avons rien à faire. Tout est déjà prêt. Le salut, c'est prêt. Ce n'est pas nous qui le faisons. L'entrée dans le ciel, c'est Dieu qui s'en charge. Nous, on lui fait simplement confiance. Mais qui est ce serviteur, me direz-vous, pour que s'il passe dans ma rue, s'il frappe à ma porte, pour que je le reconnaisse ? Ce serviteur qui vient nous appeler, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui va de porte en porte, de cœur à cœur. Il va chez l'homme qui est très content pour son champ. Il va chez l'homme qui est tellement content pour ses 10 bœufs. Il n'a pas dit 10, parce que ça faisait un peu trop fort. Il a dit 2 x 5. Ça fait moins fort. 2 x 5. Et puis il est tellement content, l'autre qui vient de se marier avec sa jolie mariée, là. Hein. Alors il va chez tout le monde. monde, là, en pleine activité, en pleine vie, en pleine tâche, en plein souci, en plein trafic. Il va parce qu'il a une invitation personnelle. Le salut, c'est personnel. C'est Dieu qui s'adresse à nous d'une manière individuelle. C'est notre sauveur personnel. C'est une question entre nous et lui, mes amis. Je ne peux pas aller au grand repas sans ce serviteur. Je ne vais pas venir vers le grand château du maître en disant ben, « je m'invite ». Il faut le serviteur. Il faut que ce soit lui qui m'introduise. Je ne peux pas aller en Dieu, vivre en Dieu, sans Jésus-Christ. Je ne peux pas obtenir aucune grâce, aucune espérance, sans Jésus-Christ. C'est lui le chemin qui mène à ce grand repas. C'est lui la vérité sur ce repas. C'est lui la vie. Sans Jésus, je suis hors du chemin, hors de la vie. Venez, dit-il, tout est déjà prêt. Pas de prix à payer, pas de conditions. Venez, vous les grands et les beaux, les sportifs, les sveltes, les champions des Jeux Olympiques d'hiver, venez, non, il y aurait trop peu de monde. Venez, vous les médailles d'or, il n'y aurait pas grand monde en France, hein. Venez, tout est prêt, pas de prix. Ce qui veut dire que l'entrée du royaume est largement ouverte. Gloire à Dieu. Et si quelqu'un nous envoyait, faites attention, il y a beaucoup de trafic aujourd'hui, hein. Si quelqu'un nous envoyait une facture pour payer d'avance, déchirez-la. Et je suis sûr que même le Christ la déchirerait. Parce que si on nous dit que le salut c'est payant, il faut déchirer cette facture-là. Si on nous dit qu'il faut être de telles conditions, il faut déchirer tout cela. Parce que le Christ a dit, quiconque croit en lui, en Jésus, ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Amen. Alors que le diable, qu'aucune religion nous dise qu'il faut quelque part mériter ou payer, ce serait vraiment réservé qu'à une élite. Dieu s'adresse à chacun, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, aimés de Dieu, qui que nous soyons. À une époque où l'on massacrait les Juifs par millions, il y a des voix qui se sont élevées en France avec une parole tout à fait banale et simple. Il y a le pasteur Bogner de la Fédération protestante de France à l'époque. Puis il y avait l'évêque de Toulouse qui disait tout simplement « Les Juifs sont des êtres humains ». C'est tout. Dites-le partout. Les Juifs sont des êtres humains. Et pour Dieu, qui que nous soyons, Roms, Juifs, Chinois, Français, Bretons, qui que nous soyons, Dieu nous appelle à son repas. Amen. Réunionnais aussi, j'oubliais, pardonnez-moi. Et d'autres. Venez, car tout est déjà prêt. L'évangile de Matthieu dit, j'ai tué mes bêtes grasses. Qu'est-ce qu'on va manger, dites donc. Mes bœufs sont tués. Je me dis, on aura de la bonne viande, non? Mes bœufs sont tués, mes bêtes grasses sont tuées. Venez, tout est prêt, maintenant. Ça veut dire que le salut, c'est au moment où le Christ parle. Maintenant. On ne peut pas faire attendre les bêtes qui sont sur la table, qui fument pendant 3 siècles. C'est maintenant le salut. Au moment où l'on peut dire aujourd'hui, si tu entends la voix du Christ, ne ferme pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, c'est l'heure du salut, c'est l'heure de la grâce, c'est l'heure où il veut te sauver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et là, j'ai eu froid dans le dos. Tous, unanimement, à l'unanimité, se mirent à s'excuser. Encore, il y en aurait eu un pour relever la situation, même pas. Pas un. Tous ont pris la liberté de venir pour ne pas venir à Jésus. Tous ont employé leur intelligence pour ne pas venir à Jésus. J'ai froid dans le dos, je vous l'avoue. Pour tous ceux qui, et j'en rencontre, disent toujours non à Jésus. Nous pouvons avoir ainsi une occupation, quelque chose d'important que nous vivons dans la vie, et manquer le plus important, la rencontre avec le Christ. Mais, mes amis, réfléchissons bien. Pourquoi ce refus? Est-ce qu'ils ont quelque chose contre le serviteur? Est-ce qu'ils ont quelque chose contre ce grand roi qui fait des noces pour son fils? Est-ce que c'est vraiment le chant qui les empêche de partir dans l'aventure de la vie avec le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment les bœufs, la belle mariée? Le premier mal, le premier péché, qui est avant tous les péchés, c'est le manque de confiance en Dieu. Ils n'ont pas eu confiance dans ce repas. Ils n'ont pas réalisé le repas. Le premier péché qui est en dessous de tous les péchés, c'est le manque d'amour pour Dieu. C'est la non-foi. C'est l'incrédulité. C'est dire, je veux vivre sans Dieu. Et certains vont un peu plus loin en disant, je veux être mon propre Dieu, décider tout moi-même. Et comme disent parfois certains, j'ai ma conscience, je ferai ce que je veux. C'est le plus grand des péchés, c'est le premier péché qui est en dessous de tous les autres péchés. Tout le reste a servi de prétexte un peu. Le mariage, les biens, le premier, c'est le refus de Dieu. Et je vois là que ces gens, ils sont proches, ils sont modernes, ils sont un peu comme beaucoup de nos contemporains, ils ont une vision faussée, pas confiance dans le repas éternel, et puis confiance dans des choses passagères, matérielles, futiles, provisoires. Ils ont délaissé l'éternel pour s'emparer du provisoire. Quelle tragédie. L'apôtre Paul dit, ils ont adoré la créature et ils ont méprisé le créateur. Le champ, les bœufs, la mariée. Bon, pas dire trop de mal des mariés quand même. Mais ce sont des choses qui sont secondaires. L'essentiel, c'est Dieu avec nous. Et tous ont répété la même petite prière, comme s'il s'était passé le papier sous le manteau. Excuse-moi, je te prie. Excuse-moi, je te prie. Y a-t-il un pardon pour ceux qui refusent le Christ? Je pose la question. Y a-t-il un pardon pour ceux qui refusent le Christ? Parce que si le Christ nous pardonne, si on le refuse, il nous pardonne pourquoi? Puisque le pardon du Christ, c'est pour nous faire entrer dans le ciel. Et si on ne veut pas entrer dans le ciel, est-ce qu'il nous pardonne? Il n'y a pas de pardon. C'est un pardon qui n'est pas valide, qui ne sert à rien. Excuse-moi, je te prie. Excuse-moi, c'est un mot qui est très trop faible. Je bouscule quelqu'un à la sortie du magasin, excusez-moi. Je rencontre quelqu'un qui, peut-être sans le faire attention, j'ai fait tomber son caddie, j'ai fait tomber son porte-monnaie, j'ai fait tomber... Excusez-moi. Mais le plus important, c'est de dire pardon. Parce que pardon, c'est pas pour une futilité, c'est pour un mal plus important que excuse-moi. Excuse-moi, c'est pour les broutilles de la vie. On le dit sans cesse, non? Mais pardonne-moi, cela veut dire j'ai péché contre toi. Mais eux n'ont pas pu dire ça, car s'ils avaient dit pardon, ça voulait dire nous faisons une faute. Ben, réparons-la. Ils n'ont rien réparé. Nous n'irons pas à ton repas. Nous ne voulons pas de ce maître qui nous invite, nous préférons regarder notre champ, regarder les carottes pousser et regarder les bœufs qui vont beugler dans la mangeoire et puis s'occuper de la jeune mariée. Et voilà, on s'est occupé des choses terrestres. Politesse dramatique. Excuse-moi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Refuser l'invitation du Christ, c'est un aveuglement. On ne sait pas ce que l'on fait. Quand Jésus frappe à notre porte, et il frappe cet après-midi à la porte, en nous disant « Venez, tout est prêt », il y a un combat qui se mène quelque part autour de nous. Et nous sommes au milieu du combat, comme au milieu du ring. Et dans ce combat, il y a Dieu qui nous appelle, comme on veut sauver un enfant du feu. Et Satan qui veut nous empêcher de saisir la main de Dieu. Il y a un combat extraordinaire au-dessus de l'être humain. Dieu et Satan. Satan qui va faire tout pour étouffer la voix du bon messager, de l'envoyé, de Jésus. Qui va faire tout pour dévorer la parole qu'il nous a laissée. Jésus compare Satan à un oiseau qui picore. Il picore toutes les paroles de Dieu que nous écoutons dans cette église ou dans votre Bible. Pour ne pas qu'on y prête attention, qu'on s'y arrête et que l'on en change sa vie et que l'on se repente des mauvaises choses que nous avons faites. Il fait tout pour enlever la bonne semence. Mais lui, il sème la mauvaise. Venez, tout est prêt. Non, excuse-moi, non, excuse-moi. Le maître est irrité. Oh, vous me direz, il est irrité. Mais c'est traumatisant pour nous. S'il est irrité, ça nous choque. Il est irrité comme vous pourriez être irrité par quelqu'un qui détruit votre fille ou votre fils. Parce que Dieu sait que le mal est éternel. Le péché est infini et éternel. À cause du péché, des hommes et des femmes seront éternellement privés de la gloire de Dieu. Vous le savez, c'est écrit clairement dans la Bible. Donc Dieu est irrité pour le mal qu'on nous fait et pour notre aveuglement et notre entêtement et notre refus. Eh bien oui, l'Évangile, c'est une merveilleuse nouvelle, mais il faut dire que des gens diront non. Moi, j'ai dit oui. Et vous? J'ai dit oui, Seigneur. Car j'ai vu dans la Bible les conséquences, les résultats d'un non devant Dieu. J'ai dit oui. Mais des gens diront non. Mais est-ce que Dieu va arrêter son projet? Bon, on range tous les bœufs, on range les bêtes grasses, on éteint les chandelles, on range la soupe. Il n'y aura pas de repas, excusez-moi. L'incrédulité ne change pas l'amour de Dieu. Et le péché ne change pas. Si, il change Dieu, le péché. Car à cause du péché, Dieu s'est fait homme. Et Dieu est venu en Christ mourir sur une croix pour prendre le péché. Je vais même vous dire comme s'il les avait fait, les prendre sur lui pour les engloutir dans l'amour de Dieu. Mais notre incrédulité, et nous avons connu des époques, et même dans notre vie, des époques où nous étions incrédules, et on faisait des choses qui nous ont vraiment desservis, qui nous ont fait beaucoup de mal. Mais Dieu n'a pas fermé sa porte. Dieu n'a pas fermé son cœur. Dieu a laissé la table mise et les bêtes et le repas et la porte ouverte. Et Dieu dit à son serviteur, va sur les places de la ville, place de la mairie, place Saint-Germain, place du Saint-Jacques à Rennes, va sur les places va dans les rues et amène les pauvres, les estropiés, amène tous les malheureux, amène-les, amène tous ces gens qui vont dire oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont dit oui? Parce qu'ils ne se sont pas cachés derrière leur suffisance. Ils ont dit, nous sommes pauvres du cœur, nous sommes estropiés dans notre âme, on ne vaut pas cher. C'est ça, le commencement. Le commencement, c'est de se connaître dans la lumière de Dieu. On m'a posé la question l'autre jour à la radio, au RCF, et on m'a demandé, mais enfin, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a le péché? Parce qu'on peut faire des péchés sans s'en rendre compte. L'Évangile est une lumière qui nous révèle le péché. Quand on est devant l'Évangile, on est en pleine lumière et on voit ce qui va mal en nous. Le péché ne vient pas de notre invention, c'est une révélation de Dieu. Tu ne sais pas que tu es pécheur. Tu ne sais pas. Le péché nous a été révélé par la Bible. Oui, des gens ont dit oui. Parce que devant Dieu, ils ont eu l'immense grâce, l'immense sagesse de dire « Nous sommes estropiés, nous sommes mal, nous avons péché contre toi et contre le ciel. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes enchaînés au désespoir, nous vivons la misère. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. » Ils ont reconnu que tout allait mal et ils ont dit « Viens à notre secours. » Et ces gens-là sont entrés. Combien, au fait? On me pose parfois plusieurs questions sur le repas du royaume. On ne m'a jamais demandé ce que nous mangerons. Mais on m'a demandé toujours deux choses. Est-ce que nous serons nombreux? Et est-ce qu'on se reconnaîtra? Ça vous intéresse comme question? Je ne sais pas si je vous reconnaîtrai. Mais je vais reconnaître Abraham et son fils Isaac et Jacob, son petit-fils. Je ne les ai jamais vus, remarquez. Mais Jésus nous a dit qu'on va les reconnaître. Alors si on reconnaît Abraham, qui a déjà quelques années déjà parti dans le royaume, je crois que je vous reconnaîtrai aussi. Et que quelque chose de nous nous dira, eh bien c'est la sœur Dupont qui est là. Ou c'est le pasteur Leprat. Amen. Vous ne voulez pas que je sois avec vous là-haut? La vraie misère, ce n'est pas la misère sociale, disait Luther, c'est de dire non à Dieu. Ils sont venus, combien nous serons, c'est vrai? Centaines de millions, des milliards quand même, à entrer dans la maison de Dieu. Et il y a encore de la place. Le serviteur revient, tout essoufflé, il a fait rentrer tous les pauvres qui disaient oui au Christ, à l'Évangile, à la croix, à la résurrection. Et le serviteur dit, il y a encore de la place pour vous, si vous voulez. Vous voulez? Amen. Pour vous, il y a encore de la place pour vos enfants. Il y a encore de la place jusqu'à la fin du monde pour tous ceux qui diront oui à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Et peut-être au fond de notre cœur, si nous entendons sa voix, ce frappement terriblement doux de sa main sur notre cœur, dire « Oui, Seigneur, je veux entrer dans ta vie, en Dieu, dans le bonheur de la foi. Tu nous visites quand nous sommes assemblés autour de ta parole. C'est l'heure où tout est prêt. C'est l'heure où le serviteur passe. Où Jésus passe pour nous demander « Voulez-vous venir avec moi ? Lève-toi, je t'appelle. » Et en cette heure, Seigneur, nous voulons te répondre avec promptitude, rapidité. Nous voulons te répondre en délaissant ce mal qui nous a alourdis dans nos consciences, dans nos corps et nos âmes. Et nous voulons te dire, Seigneur, je mets en toi toute mon espérance. Sauve-moi, Seigneur. Efface mes péchés que j'ai commis contre toi, contre mon prochain et tous les péchés que j'ignore. Et entraîne-moi avec toi, parce que ton nom est un parfum qui se répand et qui donne du bonheur et de la vie. Seigneur, merci pour ta visite sur la terre qui dure toujours, qui sera jusqu'à la fin du monde. Dieu visite le monde. Seigneur, nous voici. Nous voici, nous te suivrons et nous serons un jour assis avec toi dans le royaume des cieux. Amen.